Le peuple ne veut pas d'un langage de la nostalgie, d'un langage de l'inachevé, d'un langage de l'incertitude et de l'indétermination qui nuit au peuple et à l'affirmation de sa volonté. Voilà pourquoi le programme a été conçu pour combattre la nuit et les ténèbres du mensonge. Le peuple veut la réalité. Il n'a que faire des transports de l'ivresse, des illusions et des fantasmes. Aussi, le programme se doit de montrer la seule et vraie réalité qui soit, celle qui est là, qui existe. Car dans la nation programme, tout est là, présent. Dans la nation programme, il n'y a pas de vide, d'inconnu. Il n'y a que l'espace occupé par le peuple, qui en connaît chaque parcelle, jusqu'au moindre bout de plastique, et chaque citoyen. Je dis bien chaque citoyen, jusqu'à la racine du nombril. Le peuple veut du visible, du concret. Le peuple veut du bien-être et du manger. Le peuple veut l'ordre et la sécurité. Le peuple veut des preuves, pas des traces. Le peuple veut du sperme, pas la fumée, le sexe. Le peuple veut des enfants, pas les ancêtres et les croulants. Le peuple veut la santé, pas les handicapés, les malades et les fous. Le peuple veut le bonheur et le présent, ici et maintenant. Le peuple veut l'immortalité. Le peuple veut le temps et l'espace à plein temps. Tout l'espace, tout le temps. Un temps et un espace où l'incompréhensible, l'insaisissable, le flou, l'art, la poésie et la magie n'ont rien à y faire. Le peuple veut du carré, pas des ronds et des diagonales. Le peuple veut la stabilité, pas le rythme. Le peuple veut l'unité, pas le multiple. Le peuple veut du plein, du marbre, pas le nombre. Le peuple veut la pureté, pas la couleur et le vice. Le peuple veut des réponses, pas des interrogations. Le peuple veut l'instruction et le progrès, pas l'obscurantisme. Le peuple veut la maîtrise et la raison, pas l'angoisse. Le peuple veut du soleil, mais pas l'ombre et ses trous. Le peuple veut la clarté, la transparence. Et le programme est là pour ça, pour offrir au peuple la clarté et la transparence, la lumière, le bonheur, le miroir, la lumière, 24 heures sur 24, le miroir à flot, des rayons en abondance, le bonheur. Mais pas l'obscur et l'obscurité, mais pas la faim et le désir, mais pas l'attachement et la servitude, mais pas l'étrange et l'étranger, mais pas l'artifice, pas le mensonge. Le peuple veut une nation du jour, où seule la forme est reine et les corps sont rois. Apprenez que vous êtes arrivés au commencement du lieu présent et qu'il vous faut y rester ou disparaître. Vous vous dites, le programme est un imbécile. Vous dites que le peuple est un imbécile. Mais nous sommes en République. La République du programme, c'est ce que vous semblez ignorer. Et le programme se doit au peuple et à son bonheur. Le programme est garant de la sécurité de chaque citoyen. Et chaque citoyen est garant du programme. Comme chaque suffrage exprimé est garant de sa légitimité. Nous sommes le programme. Vous êtes le programme. Vous faites le programme. Vous portez le programme. Vous enfantez le programme. Vous éclatez au programme. Vous nourrissez le programme. Et le programme s'éclate avec vous. Vous l'avez dit. C'est vous le programme. Je suis le programme. Tu es le programme. Il est le programme. Nous sommes le programme. Le programme, c'est vous. Vous avez voté le programme. Vous avez élu le programme. Vous avez porté le programme à la chair suprême. Vous avez donné les pleins pouvoirs au programme. La parole est maintenant au programme, c'est-à-dire à vous. Et pour vous, le programme ne cherche pas midi à 14h. Vous voulez du travail? Et le programme vous offre du travail. Vous voulez le progrès? Vous voulez l'ordre et la sécurité? Et le programme vous fournit le progrès. Le programme vous fournit l'ordre et la sécurité. Vous ne voulez plus avoir peur. Vous ne voulez plus de la peur. Et le programme a éradiqué la peur. Est-ce ainsi que vous pouvez dormir en paix? Vous reposez en paix. Vous lavez en paix. Vous purifiez en paix. Vous nourrir en paix. Travailler en paix. Circuler en paix. Pisser en paix. Procréer en paix. Et mourir en paix. Le programme veille sur vous en paix. Et vous veillez sur le programme en paix. Vous êtes en paix, en sécurité. Car vous faites confiance au programme. Parce que le programme, c'est vous. Vous êtes le programme, ne l'oubliez pas. Vous êtes le programme. Vive le programme!
Marcel Zhang, merci de cette introduction à cette rencontre autour du Cabaret du Futur. Cabaret du Futur, théâtre et science-fiction, un ouvrage par l'édition Color Gang, 21 auteurs sur la planète. On m'entend pas, non. Je continue à parler. Non, je change de micro. Okay. Merci. Merci aux techniciens d'avoir fait signe. Donc, théâtre et science-fiction, une histoire relativement récente, à laquelle s'est frotté Sylvain Renard à vos éditions Color Gang pour une anthologie tout à fait passionnante que je vous recommande d'acheter ici dans notre magnifique librairie dans le cadre de ces 16e Utopial Festival International de Science-Fiction de Nantes. C'est vrai que science-fiction et théâtre jouent tous les deux sur le réel, jouent sur notre faculté à suspendre notre incrédulité, puisque lorsque l'on va au théâtre, on se rend bien compte que devant nous, on n'a pas le royaume du Danemark, tout comme lorsqu'on regarde un film de science-fiction, on se rend bien compte que ce qui nous est présenté n'est pas forcément, n'est même pas du tout le futur que l'on aura. Donc cette facilité que l'on peut avoir à la fois au théâtre et dans la science-fiction à suspendre notre incrédulité, à adhérer à un propos parfois très complexe, à faire fi du décor comme telle, mais vraiment à se plonger dans l'histoire. Elle a été portée, elle a été conjointe parfois, dont on se souvient que dans la pièce RUR de Karel Čapek, le terme robot est apparu. Il y a des auteurs récents même qui ont fait du théâtre de science-fiction avec beaucoup d'attention et beaucoup de succès. On pense à Joris Mathieu, par exemple, qui a travaillé sur une pièce qui s'appelle Ubique et Orbique sur Philippe K. Dick, qui a aussi mis beaucoup de post-exotisme sur scène. On parlera du post-exotisme, j'espère. Christian Denizard aussi, un metteur en scène suisse qui a fait intervenir des robots sur scène. Je pense aussi au metteur en scène Jay Sheb, qui s'est attaqué à Simulacron 3 de Daniel Galouille. Vous connaissez sans doute ce livre des années 60, un contemporain de Philippe K. Dick. Qui ont réussi à plonger le spectateur à la fois dans le théâtre et la science-fiction. Et autour de la table, nous avons aujourd'hui des intervenants qui ont fait le pari d'écrire du théâtre de science-fiction, des formes extrêmement courtes dont on va parler maintenant, cette double difficulté de faire adhérer à la fois aux propos théâtral et aux propos de la science-fiction. Je les présente rapidement. Sylvie Beauget, d'origine française et iranienne. Vous êtes à Nantes depuis quelques années. On va dire, vous avez écrit au moins deux romans et pas mal de théâtre également. Vous avez rejoint dans ce cadre-là les EAT, l'Association des auteurs de théâtre atlantique, dont on parlera également, pour un certain nombre de textes. Marcel Zang, on vous a entendu, merci encore. Vous êtes né au Cameroun, vous êtes en France aussi depuis de nombreuses années. Vous avez écrit plusieurs pièces de théâtre qui ont paru chez Actes Sud, dont au moins une a été mise en scène en 2011-2012, je crois, le Général à Paris. Bertrand Pinault, vous êtes le Benjamin de cette table ronde, 25 ans, touche à tout du théâtre, diplômé de l'Université de Nantes en lettres modernes, et sauf erreur, ce texte qui se revendique un peu du post-exotisme, justement, c'est votre premier texte publié, je crois. Voilà, donc bienvenue dans ce monde terrible de l'édition et du théâtre, surtout. Renan Chevillier, vous êtes le président des EAT Atlantique, vous en parlerez, vous êtes à l'origine aussi de ce projet et vous faites beaucoup d'interventions sur Jet FM également ici à Nantes. Vous avez écrit des textes dont certains ont été présentés en public, au lieu unique entre autres dans le cadre du Festival Sonore. Et last but not least, Sylvain Renard, metteur en scène et auteur installé à Nantes depuis quelques années aussi, qui s'intéresse lui beaucoup à la science-fiction, les autres on verra si c'est le cas ou pas, ou si c'est par hasard, qui est peut-être la cheville ouvrière de ce projet, la force principale derrière ce projet, puisque Sylvain, tu as déjà rédigé plusieurs textes qui touchent à la science-fiction. Je pense à Open Space qui a été présenté au lieu unique il y a de ça 2 ou 3 ans, et d'autres également comme Partir ou Tendre Robot. La technologie est une partie intégrante de ton travail. Raconte-nous peut-être avec Renan la genèse de ce projet. Pourquoi s'attaquer au théâtre de science-fiction? Pourquoi publier dans un contexte plutôt local? Il y a beaucoup d'auteurs proches de Nantes quand même. Est-ce que ça a un rapport avec les Utopiales ou autre? Voilà. Comment est né ce projet? D'où vient cet intérêt pour la science-fiction conjointe au théâtre?
Mais c'est vrai que c'est en partie né aux Utopiales, puisque je suis venu il y a quelques années voir un certain nombre de films, et notamment un film qui m'a vraiment marqué, qui faisait partie de l'absurde séance, et qui s'appelle, c'est un film coréen qui s'appelle Il faut sauver la planète verte, et il y avait vraiment une dimension très théâtrale, je trouvais, dans ce film. Et moi, j'écrivais depuis quelques années des pièces qui avaient à voir avec les technologies, d'abord avec le téléphone, avec les ordinateurs, de manière assez lente, mais assez certaine, cette matière de la science-fiction m'attirait, me fascinait, et dans le fond... J'ai trouvé petit à petit une voie pour écrire du théâtre à partir de cette matière. Quoi.
Voilà. C'est quand même déjà pas très facile de se faire publier en tant qu'auteur de théâtre. Se faire mettre en scène, c'est encore une autre affaire. Mais auteur de théâtre et de science-fiction, c'est un peu la double difficulté, non?
Alors, Moi, je suis persuadé, alors c'est actuellement, c'est un peu une difficulté, mais je suis persuadé que c'est un projet qui pourrait vivifier le théâtre, en fait. Parce qu'on se rend compte, en faisant des ateliers d'écriture et en proposant à des élèves de s'engager dans l'écriture de pièces de science-fiction, qu'il y a une sorte d'enthousiasme pour aller vers cet inconnu, vers ce monde imaginaire. Il y a une sorte de fureur d'écrire du théâtre de science-fiction qui est tout à fait palpable. Et je suis persuadé, moi, que le théâtre a tout à faire avec des genres de ce type, genre de science-fiction, pour se revitaliser, en fait.
Historiquement, on sait par exemple que Jules Verne était avant tout auteur de théâtre, hein, Tour du monde 80 jours par exemple, et a d'abord été une pièce, hein, qui n'a pas été montée, qui est devenue ensuite un roman, et c'est seulement lorsque le roman est devenu célèbre qu'il a pu remonter cette pièce. Donc ouais. C'est vrai que ouais. Par exemple, l'écriture très imagée de Jules Verne, c'est une écriture, et les scénarios assez élaborés qui ont donné lieu à de très nombreux films viennent du théâtre, vraiment, quoi.
Ouais, et en plus je pense que c'est vraiment le lieu approprié parce que dans le fond effectivement les effets spéciaux du cinéma même s'ils nous paraissent juste dans le temps où on le regarde et ils épousent la technologie du moment, en réalité ils paraissent très vite complètement désuets, et il y a une sorte de minimalisme dans le théâtre qui fait qu'en fait on suggère les choses plus qu'on ne les montre, qui est d'abord extrêmement élégant par rapport à la vulgarité très fréquente du cinéma, et qui est vraiment, à mon avis, le médium le plus adapté, on s'en est pas encore rendu compte, mais on va s'en rendre compte, le plus adapté pour faire de la SF.
Je me réjouis de t'entendre le dire, puisque voilà, ça fait longtemps qu'on cherche des projets de théâtre de SF pour la scène nationale, le lieu unique, et c'est vrai que c'est assez peu fréquent quand même. On a montré un exemple récemment qui s'appelle System Failure, qui a eu lieu cette semaine. Renan, vous êtes principalement quand même à l'origine de ce projet. Comment est venue cette idée? Pourquoi avoir décidé de lancer ceci avec la bénédiction de l'Association des écrivains de théâtre ici?
Alors moi déjà, je suis président des EAT Atlantique, donc Sylvain Renard, je le connais depuis assez longtemps parce que je l'avais interviewé sur Jet FM, donc je connaissais bien ses pièces de théâtre, et donc il y avait un lien ensemble. Donc peut-être je peux citer une pièce qui était Open Space, où toute la pièce était sur la question des avatars, de se créer des personnages. Et donc c'est vrai qu'en partant d'un fait qui peut énormément attirer, la question de se créer un double sur la toile, en fin de compte, rentre directement dans un questionnement de théâtre avec des métamorphoses, avec des changements d'identité, presque une question du théâtre classique qui a eu beaucoup. Donc moi, ce que j'avais proposé à l'origine à Sylvain, c'était l'envie qu'il propose un projet collectif, et en particulier puisqu'il avait poussé des questionnements autour des nouvelles technologies, le téléphone, les avatars. C'était ce territoire qu'il avait balisé pour lui dans une sorte de solitude d'auteur, qui propose à d'autres auteurs de traverser son espace.
Et la sélection des auteurs s'est faite comment? Parce que voilà, il y a 21 auteurs, le livre est assez petit, il y a une contrainte de nombre de signes qui est très importante. Je crois qu'il y a ces 5000 signes, donc deux pages à peu près. Marcel a lu son texte en entier, donc on voit ils sont pas très longs. C'était pour pouvoir les présenter sur scène de façon un peu simplifiée. Comment ça s'est fait en fait la sélection? Et je sais qu'il y a aussi une question de tirage au sort un peu derrière tout ça.
Bon alors. Pour dire court, en fait, on a proposé aux auteurs des EAT de participer. Et ceux qui avaient envie, qui étaient volontaires, qui avaient envie de participer, faisaient partie du voyage. Ensuite, j'ai demandé à quelques auteurs qui ne faisaient pas partie des EAT, deux ou trois, de participer également, parce que je voulais pas que ça soit exclusif. En gros, on a mis au point un certain nombre de thèmes qu'on avait envie de traiter. Donc on a fait une liste de thèmes. Donc il y avait parmi ces thèmes les drones, les clones, les robots, la sexualité du futur, les régimes politiques des temps futurs, toutes sortes de bouleversements climatiques, enfin un certain nombre de thèmes. Et ensuite on a procédé à un tirage au sort avec Ronan et on a lié chacun des auteurs avec son thème. Il fallait qu'il y ait de l'inédit, que l'auteur soit surpris, qu'il se coltine à un thème qu'il n'avait pas prévu. Il y avait une contrainte de signes qui était 5000 signes. Donc faire très court, ça c'est des textes qui se rapprochent souvent du sketch en fait. Voilà en gros.
Disons que la contrainte des 5000 signes, donc on a un texte de 2 pages qui, à la lecture à voix haute, ça dure 5 minutes. Mais par exemple, pour certains textes, vous aviez entendu Delphine Bretéché, son texte sur la fin du monde, on sent que possiblement, déjà, elle a le désir de retravailler sur son texte court pour en écrire une pièce plus longue. Et on sent que à l'écoute du texte, sur scène, si c'était mis en scène, ça pourrait se développer sur une dramaturgie beaucoup plus longue, qui pourrait, disons, être sur 40 minutes. Donc il y a aussi ça, cette étrangeté, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a 3 pages que ça indique le temps de représentation.
C'est vrai que ça se lit très facilement et ça donne un aperçu un peu d'imaginaire très différent les uns des autres. J'imagine que c'est aussi des textes qui ne sont pas forcément issus d'auteurs qui s'intéressent à la science-fiction. Je sais pas, peut-être que c'est le cas. Sylvie, vous, la science-fiction, c'est quelque chose qui vous a bercé. Parce qu'ici, évidemment, dans le cadre de Zootopia, tout le monde ne parle que des auteurs qui l'ont marqué. Robert Silverberg est dans la maison, c'est génial. Plus grand auteur de science-fiction de tous les temps, peut-être.
Alors, qui m'a bercé, non, pas vraiment. Qui m'intéresse, oui, mais qui m'intéresse au même titre que beaucoup d'autres types d'écriture. Quand Sylvain nous a proposé d'écrire un texte de science-fiction, j'étais immédiatement intéressée quand même parce que dans la science-fiction, il y a une multiplicité de possibles. Donc je me suis dit, ça va être un texte, on va pouvoir imaginer beaucoup de choses. Et j'ai accepté, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et un peu comme le disait... Ronan, moi aussi, j'avais envie d'écrire plus autour de ce texte. J'étais obligée de réduire, quoi.
Moi, je vois que votre texte, par exemple, vous dites que la loi veut des individus proactifs, hein, et qu'à un moment, lorsqu'on n'envoie pas un j'aime ça ou un smiley, ça ne correspond pas à notre conception du lien social. Il n'y a pas une forme de défiance du monde contemporain dans de manière générale dans votre texte et dans les autres textes? Il n'y a pas une espèce de défiance aussi de la technologie, vous semble-t-il?
De défiance, pas forcément, mais on grossit les choses puisqu'on imagine ce qu'elles peuvent devenir si on continue dans ce sens-là. Et donc là, moi, j'avais comme thème la surveillance du futur. C'est ce que j'avais tiré au sort, puisqu'on a tiré notre thème au sort. Et c'est vrai que la surveillance que j'ai imaginée était une surveillance qui est limitative et normative, qui va obliger chaque individu à fonctionner pareil, et ceux qui fonctionnent pas pareil vont être petit à petit évacués, quoi.
Vous avez travaillé aussi sur des questions d'atelier d'écriture avec des écoles sur ces sujets-là. Vous pouvez nous en parler un peu?
Oui. Alors, je vais rebondir sur ce que disait Sylvain, c'est-à-dire que le fait de proposer à des lycéens et à des collégiens de travailler sur du théâtre de science-fiction les enthousiasme. Alors, je dirais a priori, avant même qu'on ait commencé, ce qui n'est pas le cas d'ordinaire, on travaille régulièrement en collège-lycée, on propose des ateliers d'écriture théâtrale. Ils sont parfois un peu méfiants. C'est un côté un peu poussiéreux. Et puis, là, des contes science-fiction, bon, ils sont partants. Donc ça, c'est une chose qui est... ça fait plaisir parce que c'est pour nous un moyen aussi d'intégrer le théâtre auprès des jeunes, quoi, de les y intéresser. Et puis, la deuxième chose que j'ai trouvée passionnante, puisque j'ai animé, toi aussi, d'ailleurs, Sylvain, donc des ateliers auprès de lycéens, ils ont été extrêmement créatifs dans le sens où à partir de sujets qui étaient des sujets de science-fiction, ils ont tiré au sort, comme nous l'avions fait, donc des différents sujets, drones, clones, robots, etc. Ils ont en fait traité réellement de problèmes fondamentaux et de problèmes essentiels. Et c'est pas toujours le cas. Pour moi, ça a été une expérience grâce à ces thèmes qui est extrêmement intéressante et que nous allons renouveler.
ça veut dire que vous avez fait réfléchir des jeunes au futur aussi, d'une certaine manière. Qu'est-ce qui en est sorti?
Via le futur, par exemple, je pense à une scénette sur le thème de l'éternité. Le texte s'appelle « Veuve éternelle ». Donc, ils ont posé plusieurs questions autour de l'éternité. Le fait de penser théâtre oblige à penser quand même beaucoup la relation, parce qu'au théâtre, on peut pas se dire « on va faire tout un tas d'effets spéciaux ». Donc, l'éternité, ils ont forcément réfléchi à ce que ça voulait dire d'être éternel par rapport au couple, par rapport aux voisins, etc. Et là, en l'occurrence, le thème de l'éternité, ils l'ont traité à partir d'une relation de couple. Donc, c'est un couple qui se rencontre, ils sont 100% compatible. Seul problème, la jeune femme n'a plus qu'un an à vivre, parce que dans le monde en question, on peut savoir donc le temps qui nous reste à vivre. Et là, ils ont la jeune femme qui n'a plus qu'un an à vivre peut devenir éternelle, parce que ceux qui sont mourants, on peut leur mettre une puce qui leur donne l'éternité. Mais si elle devient éternelle, par contre, son compagnon, lui, n'est pas éternel. Lui, il a droit à 100 ans. Bon, c'est déjà pas mal. Et donc se pose la question, soit je choisis de mourir, soit je choisis d'être éternelle. Mais si je suis éternelle, il y a un moment où je serai veuve et à ce moment-là, je serai éternellement veuve. Donc ça soulève des questions que je trouve très 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 riches, quoi, à partir de ces questions-là. Et finalement, ils finissent par choisir, elle finit par choisir de mourir, quoi, parce qu'au moins ils peuvent vivre ce qu'ils ont à vivre, bon, sans se poser de questions. Alors il y a plein d'exemples qui soulèvent beaucoup de thèmes fondamentaux, quoi. Mais à chaque fois c'est des thèmes forts, quoi. Sur les clones, ils ont sorti beaucoup de questions autour de la discrimination. Enfin bon, ça a été. J'ai trouvé que chaque texte allait finalement beaucoup plus loin que la moyenne. Ouais.
C'est vrai qu'au lieu unique, on essaye de se pencher sur la question du futur là et de la jeunesse. On a par exemple un projet. Pour dans un an, qui s'appelle Nos Futurs, mais NOS, où on tente d'impliquer des gens de moins de 30 ans, peut-être, à parler théâtre et futur. On verra si on y arrive. C'est pas si simple de trouver des projets qui impliquent les plus jeunes. Bertrand, puisqu'on parle de jeunesse, vous m'avez tout de suite parlé aussi de post-exotisme. Votre texte, il est plutôt sur la question de progrès.
De progrès, oui. Moi, c'était voiture sans conducteur, mathématiques.
Voilà. Ah oui. Voilà. Donc, super facile comme thématique.
Voilà. Quand tout le monde avait bouleversement climatique, des trucs super généraux, moi, je suis tombé sur, en plus, ma phobie. Je déteste les moteurs. J'ai peur des moteurs et je suis tombé sur voiture sans conducteur. Donc, c'était l'ironie du sort.
Mais vous êtes un lecteur de science-fiction ou pas du tout? C'est pas votre.
Moi, j'étais un lecteur de science-fiction, on va dire, d'adolescence. Bon, j'avais deux, trois amis avec qui on lisait beaucoup d'Asimov, de nouvelles entre deux cours. Et parce que, voilà. Mais c'était pas non plus, on va dire, nos lectures de prédilection. Néanmoins, sur la suite, moi, j'ai un auteur qui m'a vraiment une rencontre de lecture qui m'a énormément inspiré, à la fois en tant que lecteur, en tant qu'étudiant en lettres modernes, mais également en tant que futur auteur, c'est Antoine Volodine et le post-exotisme, qui est un univers que lui-même ne considère pas comme de la science-fiction. Il crée d'ailleurs le post-exotisme parce qu'il refuse qu'on dise que ses romans sont de la science-fiction.
Et oui, c'est un peu snob.
Oui. il crée le post-exotisme parce qu'un journaliste demande à la sortie de Lisbonne Dernière Marge en 90, si c'est pas de la science-fiction, dites-moi ce que c'est. Et Volodine répond du tac au tac, c'est du post-exotisme. Il sait pas du tout ce que c'est. En disant le mot, il crée le mot, il sait absolument pas ce que c'est ou quoi que ce soit. Et 25 ans plus tard, il sait toujours pas ce que c'est. On a une cinquantaine de définitions différentes du post-exotisme. Il est le seul à en écrire. Enfin, le seul. Il a 4 ou 5 noms d'auteurs différents avec 4 ou 5 styles différents. Et c'est extrêmement labyrinthique et quasiment schizophrénique. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a énormément influencé, moins sur le contenu des textes que de la manière de l'écrire. Par exemple, sur le principe du cabaret du futur, moi, sur mathématiques... c'est sans doute l'une qui va le moins dans un imaginaire. On est dans la scénette que j'écris, s'appelle On n'arrête pas le progrès. Le principe, c'est un homme qui attend au bord d'une autoroute que la première voiture sans conducteur apparaisse. Il sait très bien qu'il va passer sur cette autoroute. Ça fait 3 semaines qu'il attend avec sa femme qui est à côté, qui en a rien à foutre, qui a envie de rentrer. Et ils attendent inlassablement que la voiture apparaisse. Donc en soi, il n'y a pas de science-fiction à proprement parler, c'est plus une attente dans le présent d'un futur qui doit arriver. Alors lui, évidemment, il est ébahi par cette attente, et sa femme, pas du tout. Voilà, donc c'est dans ce principe-là. Donc, mais plus sur la manière d'appréhender l'écriture, et notamment sur le post-exotisme, il y a quelque chose qui me fascine beaucoup, c'est notamment la création de personnages d'auteurs. Quand je dois appréhender un texte ou l'écriture d'un texte, avant tout, je ne dis pas c'est moi qui vais écrire ce texte, non, je vais essayer de créer le personnage d'auteur qui va écrire ce texte-là. C'est-à-dire, sur le cabaret du futur, je ne me suis pas posé, moi, en tant que personne, de quoi que ce soit. J'ai essayé de voir, notamment au niveau des questions de rythme, au niveau des questions de relation de personnage, vers quel type de personnage d'auteur j'aimerais aller pour écrire ça. Donc, c'est plus une démarche personnelle qu'une démarche d'écriture de contenu. Mais là-dessus, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Sur le principe du post-exotisme, notamment, c'est que il n'y a qu'une seule personne qui écrit sur le post-exotisme, c'est Antoine Volodine, on ne sait pas qui c'est. Il écrit sous 4 hétéronymes différents, c'est-à-dire il change son nom, il change son style, et à l'intérieur du post-exotisme, il cite aux alentours de 373 figures d'auteurs qui écrivent dans du post-exotisme, mais que le lecteur réel ne pourra pas lire, ils n'ont pas accès à cette bibliothèque-là. Et cette construction d'auteur m'intéressait immensément, chercher dans l'altérité et dans sa construction vraiment autrui, de manière à créer quelque chose qui soit hors de nous. Voilà. Donc c'est plus dans cette dynamique-là, moi, que je me situe dans un rapport de science-fiction ou de post-exotisme. C'est créer une autre forme de réalité, de manière à ce que, pour moi, ça sonne complètement autre. Parce que si j'écris pour moi... généralement c'est pas bon, généralement c'est que pour moi et ça n'a pas intéressé les gens, donc voilà, c'est vraiment me sortir de moi pour commencer à écrire quelque chose d'intéressant personnellement.
Merci. On va peut-être prendre les questions tout à l'heure dans quelques minutes. Je vais juste passer la parole à Marcel. C'est vrai que je suis tenté de vous demander c'est quoi le programme, mais j'aimerais plutôt dire que vous n'avez pas joué vraiment le jeu. Non seulement vous avez tout de suite commencé à dire votre texte, mais en plus votre texte était déjà écrit avant même le début de l'anthologie, hein, sauf erreur.
Oui, bien sûr, c'était écrit. Ça, en fait, c'est le prologue de ma pièce, le programme.
Ah oui.
qui va être publié, je l'espère.
Mmh. Donc, le sujet, la science-fiction, mais en général, c'était quelque chose qui était pertinent.
Je vais en venir. Mmh. D'abord pour dire que je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, mais aussi jamais dans mes rêves j'aurais pensé me trouver dans un festival de science-fiction, vraiment. Et depuis le temps que j'écris que la fiction, mais la science-fiction et moi c'est deux choses. Je ne supportais pas ça. Je ne supporte pas ça, je ne supportais pas la science-fiction. J'ai jamais essayé de savoir pourquoi. Parce que ça n'avait aucun intérêt à savoir. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui jurait profondément avec mon être profond. La science-fiction.
Vous n'avez pas Le Petit Prince, par exemple.
Mais j'en arrive. C'est que, mais en même temps, je me suis aperçu après coup que j'ai lu des œuvres de science-fiction que j'ai trouvées très intéressantes. On m'a dit après que c'était la science-fiction. Mais moi, au départ, je ne prenais pas ça pour la science-fiction. Donc, j'ai lu, évidemment, Jules Verne, Ray Bradbury, Orwell, bien sûr, qui m'inspirait pour ma pièce. J'ai lu beaucoup d'auteurs de science-fiction. Mais je ne savais pas que c'était la science-fiction. Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de science-fiction, la science-fiction, que je n'aime pas du tout.
Oui, c'est ce que vous n'avez pas, c'est l'image de la science-fiction.
Et l'image, et puis aussi, tout ce côté progressiste, matérialiste, martien, planète, et tout ça, j'aime pas ça.
Je crois que progressiste et matérialiste, c'est vous parler du monde dans lequel on vit, en fait. C'est pas du tout la science-fiction, ça, c'est le monde réel.
C'est la manière dont elle est représentée, c'est-à-dire elle répond à être complètement déconnectée. Déjà, même que le terme science-fiction, il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Vous prenez la science... Vous prenez la fiction et vous les accolez ensemble. Mais vous prenez ces deux, la science, c'est deux antonymes, c'est deux choses qui se tournent le dos, quoi. La science et la fiction, c'est vraiment, c'est le feu, ça va pas ensemble. Hein? Alors, ben c'est un oxymore, exactement. C'est l'oxymore. Et donc, vous mettez ça, oxymore, science-fiction. La science, ça traite vraiment à la réalité, c'est l'expérience, c'est la réalité, c'est le fini, le concret, etc. Et la fiction, c'est exactement le contraire. C'est le jeu, c'est l'infini, c'est tout ce qui m'intéresse, qui nous intéresse, et tout ce qui nous fait vivre. Je veux dire, alors que la science, elle est marquée avec la Terre, avec le progrès. Or, le progrès, franchement, le progrès, c'est ça a à voir avec la mort. Je veux dire, avec le temps et la mort, parce que c'est incontournable, le progrès. Et la science, elle est forcément un progrès, forcément. Hein. Et donc, elle va vers l'unité, comme le temps qui va avec le progrès. On est forcé, qu'on veuille ou non, on est forcé sur le progrès et forcé sur la science. Et or, la fiction, c'est quelque chose qui nous permet de jouer. Elle met des limites. Pour aller à la fiction, il faut traverser une limite. La fiction, c'est l'altérité, c'est l'autre, c'est l'étranger, c'est l'inconnu. Ça, c'est la fiction, c'est le jeu, c'est le théâtre. La fiction, c'est tout ce qui nous permet de vivre. C'est ce qui font notre liberté. Voilà. Alors que la science, c'est ce qui nous... Ouais, qui nous plombe à la fin de compte.
Voilà. Je suis en profond désaccord avec ce que vous dites, mais comme je suis modérateur uniquement, je vais laisser passer la parole peut-être à Sylvain, défend un peu la science quand même, ou la science-fiction. Enfin, deux mots après.
Ouais, ce que je voudrais, ça me fait rebondir sur une chose qui m'intéresse, c'est que le théâtre a toujours questionné les genres. C'est-à-dire que la parodie, par exemple, c'est vraiment une dimension forte du théâtre. Et la parodie questionne les genres. La parodie s'interroge sur l'engouement sur un genre. Et le théâtre, effectivement, peut être le lieu où on s'interroge sur qu'est-ce que ça veut dire cet engouement pour la science-fiction. Et on s'interroge de manière ludique, effectivement, comme dit Marcel. C'est peut-être un lieu... Par exemple, System Failure joue vraiment, comme j'ai vu lundi, joue vraiment de la parodie du genre. Et à la limite, remet en... Enfin, ne souhaite pas, à travers le genre, aborder des questions fondamentales. C'est une des dimensions du théâtre. C'est pas la seule.
Ce qui me semble intéressant aussi, enfin en tout cas remarquable dans le Cabaret du Futur, c'est que on sent quand même, en tant que lecteurs de science-fiction, qu'un certain nombre de ces auteurs ne sont pas du tout, et c'est tant mieux, hein, à la fois les adeptes du genre ou même très familiers du genre, et qu'il y a une certaine défiance, justement, comme je l'ai dit, par rapport un peu à la technologie, qu'il y a un peu, voilà, je comprends qu'il y a cette volonté de se mettre en porte-à-faux par rapport au mythe du progrès, bien sûr, mais t'as pas l'impression que, comme fil rouge, il y a peut-être une volonté de... Voilà, de simplicité, de distance critique. Il y a beaucoup de textes très critiques quand même par rapport... il y a un propos, on va dire, principalement politique. Il n'y a pas de vrai réenchantement du monde. Enfin, voilà. C'est comme ça que je l'ai lu, moi.
Ah oui. Peut-être. Mais moi, peut-être que ça le résultat...
C'est un peu non, anxiogène.
Peut-être voilà. Que le résultat de ces relations à cette matière est celui que tu décris. Mais ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est qu'il y a 21 rapports, il y a 21 désirs de gens de théâtre d'aller vers la SF. Et c'est cette relation d'un auteur, d'auteur, de 21 auteurs à ce genre qui crée le Cabaret du Futur. C'est-à-dire ce désir d'aller vers... ici, il y a quelqu'un qui a assisté à la lecture qui a été faite du Cabaret du Futur à Paris il y a 2-3 semaines. Et avec qui j'ai eu une conversation justement à ce sujet, qui me disait mais vous n'êtes pas des auteurs de SF,
tant mieux,
c'est pas orthodoxe votre truc. Et effectivement, moi je mettais l'accent sur ce désir d'aller vers la SF.
Mais c'est quand même assez dystopique quand même, comme non, c'est pas dystopique un peu.
Je voulais quand même...
Georges, on vous passe la parole tout à l'heure dans quelques minutes.
Parce que je vais quand même dire les choses.
Il y a juste on vous passe la parole. Ah, d'accord.
Non, peut-être j'aurais voulu reprendre deux mots en fait qui sont dans le titre du livre. Il y a cabaret et futur. Donc, qui dit cabaret dit que, en quelque sorte, il y a un pied de nez qui est fait à cette dimension du futur. Alors, la dimension anxiogène et la défiance à la technologie. Alors, j'ai pas une réponse directe, mais on pourrait dire que quand on lit ces pièces, on a une dimension à plat de ce qu'ils sont possiblement, puisqu'il n'y a que des interprétations qui donnent la vraie dimension des textes, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient joués sur scène. Et le jeu de ce paradoxe, c'est que en fait, ça n'indique pas l'intention sur scène. Les textes, en apparence, peuvent être anxiogènes, mais je dirais que plus un texte est anxiogène pour un acteur, plus ça peut procurer une énergie sur scène. Et je dirais que pour tout spectateur, plus c'est anxiogène pour l'acteur et donc le personnage, plus il va avoir ce plaisir un peu sadique de voir la torture du personnage et révéler en fait sa dimension. Enfin voilà, une dimension. Alors pour la défiance à la technologie, peut-être aussi en revenir un des paradoxes aussi qui m'a apparu à la lecture que j'ai découvert en fait aussi en tant que lecteur des 20 autres auteurs, c'est que le fait qu'il y ait une règle qui soit imposée, qu'il y ait des personnages, c'est-à-dire que la seule exception à cette règle, ça a été Marcel Zang, mais dans les autres textes, il y a à la fois une situation où chaque auteur a été obligé de créer des personnages et donc des scènes dialoguées, ce qui fait qu'il ne peut pas dévier vers une autre type d'écriture qui pourrait être à la fois le poème, le chant, mais peut-être une écriture, je dirais, plus abstraite, même mathématique, écrire de manière axiomatique, défigurer, comment dire, la possibilité d'une théâtralité pour la déchirer, la griffer, enfin, je sais pas. Non, on a des dialogues, on a des relations entre des corps, et cette relation entre des corps, elle vient recréer, en fait, dans un désir de futur, dans un futur hypothétique, elle vient recréer du quotidien. Et donc c'est là où il y a un paradoxe et une lutte, c'est-à-dire que en fait on est avec des corps qui sont possiblement dans un futur, mais qui en fait luttent avec leur archaïsme de corps organique.
J'aimerais ajouter quand même une chose par rapport à ce que j'ai dit. J'ai dit que je n'aimais pas la science-fiction, mais je n'ai pas vraiment terminé le propos, c'est-à-dire que en fait c'est une certaine science-fiction que je n'aime pas, une certaine science-fiction, parce que je n'aime pas la science-fiction qui est déconnectée de l'humain, la sauvegarde de l'humain. Parce qu'en fait... ce qui est important, pour moi, le centre, c'est l'humain. Et tout ce qui ne participe pas au projet sur l'humain, je trouve ça sans intérêt. Donc, toute science-fiction qui parle des martiens, des trucs comme ça, je pense que c'est ça qui...
Oui, les martiens, c'est nous, en fait.
Voilà. Donc, je me suis aperçu que, en fait, j'avais lu beaucoup de temps de science-fiction, que moi, je ne pensais pas être de la science-fiction, comme Orwell, tout ça. Mais ces auteurs, ils s'occupent de nos sociétés aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire ce qui est en germe. Parce que je ne pense pas que la fiction ne peut pas exister sans la réalité. La fiction, elle s'appuie sur la réalité.
Oui, j'entends ce que vous dites. On va peut-être passer la parole au public et entre autres à Georges qui veut réagir assez fermement à ces propos. Georges, peut-être, non, vous voulez peut-être prendre la parole véritablement un micro, peut-être.
C'est vrai que j'ai quand même dit sur le moment l'essentiel de ce que j'avais en tête. Maintenant, ma propre vision de la science-fiction, je vais quand même signaler que le premier manifeste de science-fiction que j'ai lu, enfin ce que je considère comme le premier manifeste de science-fiction que j'ai lu, c'est la préface d'Orwell de Victor Hugo, qui... avec sa manière de définir, justement, pour le théâtre, les relations du théâtre avec la réalité, définissait à mes yeux les relations du roman de science-fiction avec la même réalité.
Alors, c'est vrai que c'est une bonne référence, tout comme celle de Maurice Renard, par exemple, qui parle du merveilleux scientifique. C'est comme ça qu'il appelle la science-fiction c'est 1914, avant que le terme science-fiction n'apparaisse en 1926, et qui dit que le merveilleux scientifique doit pousser, doit naître sur les marges de la réalité, non pas pour faire apparaître le futur, mais pour mieux comprendre le présent. Et je crois que toute science-fiction, vraiment ne parle que d'aujourd'hui, d'ici et de maintenant. Sylvain, tu voulais...
Je voulais dire aussi, parce que je ne l'ai pas mentionné, que tu avais fait la préface du Cabaret du Futur et que c'était très important pour les auteurs de théâtre de se sentir lancés par un responsable d'une scène culturelle. D'avoir cet intérêt pour notre recherche théâtrale et liée à ce genre. Voilà.
Merci de m'avoir demandé. Peut-être d'autres des questions dans la salle sur cette anthologie, à moins que des auteurs veulent encore, Sylvie, peut-être intervenir sur certains points. Sinon, peut-être on ouvre la...
Moi, j'aurais une question. J'ai dû m'absenter, donc je ne sais pas si vous en avez parlé, mais...
Absolument pas.
Il y a une grande figure de la science-fiction contemporaine, c'est le robot, qui est apparu dans une pièce de théâtre à l'origine, RER de Tchapek, désolé si j'écorche un peu le nom, et je voulais savoir si les différents auteurs invités connaissaient la pièce et s'ils avaient des remarques à ce sujet.
Alors, moi, j'ai lu la pièce, et je trouve qu'il y a plusieurs pièces en une, en fait. C'est-à-dire que chaque acte est une pièce avec un thème différent, quoi. Mais j'aime beaucoup, dans le Tchapek, il y a quelque chose qui me fascine beaucoup, qui me plaît beaucoup et qui m'intéresse et que je trouve fécond. C'est l'idée que dans le Tchapek, on prend les robots pour des humains. Il y a toujours des confusions. On prend les robots pour des humains dans un des actes et on prend les humains pour des robots. Il y a toujours un personnage qui se trompe. Et je trouve qu'elle est toujours intéressante. Cette confusion est intéressante parce que c'est sur les apparences et tout ça. Et elle me plaît. Après, sur les robots au théâtre, je pense qu'il y a tout à faire et qu'il faut... Il faut faire des pièces là-dessus, sur le sujet. Et notamment...
Il y a quelques pièces. Il y a Oriza Hirata, un metteur en scène japonais qui travaille avec des androïdes. Hein. Ouais. Il y a également Aurélien Bory qui a travaillé sur une pièce qui s'appelle Sans objet.
Il y a un robot... de texte.
Il n'y a pas de texte. Mais c'est quand même, c'est quand même un peu une pièce liée à la science-fiction. Ouais. En tout cas, notre relation avec la technologie. Ouais. Il y a quand même quelques tentatives. Christian Denizard, justement, a fait une pièce qui s'appelait Robot. Donc, il y a quelques tentatives, pas encore complètement abouties, mais voilà. Il y a, en tout cas, du côté japonais, il y a entre autres cette pièce de Oriza Hirata, basée sur Métamorphose de Kafka, où l'un des personnages est joué par Android, ou les trois sœurs également, dont l'une des trois sœurs est également un robot.
Et dans cette pièce en particulier où que Oriza Hirata met en scène, où il y a les trois sœurs de Tchekhov, donc qui est une pièce du 19e, le personnage en fait qui est un robot, c'est un personnage presque silencieux dans la pièce. Et quand on regarde en fait le robot qu'il a choisi, ce robot-là, il a un masque qui fait penser au masque du théâtre No. Et donc, en quelque sorte, là, le robot, il devient proche en fait d'une marionnette, c'est-à-dire comment une marionnette, quelque chose en bois, elle va pouvoir exprimer des sentiments qui vont être la tristesse, la joie et un ensemble de sentiments. On se rend compte que ça va être juste des inclinaisons d'un masque. Et voilà. Et donc c'est étonnant cette relation. Enfin, quand on regardait le robot qu'il proposait, il était vraiment très proche du masque de nous.
Juste dire un autre chose aussi sur la série Real Human qui fait jouer des robots par des humains. Là, il y a quelque chose, il y a une voix quoi pour le théâtre. C'est-à-dire que utiliser l'humain pour parler de la technologie me paraît être vraiment une voix royale que le théâtre peut utiliser. Et cette série, elle est intéressante, mais effectivement, elle se perd dans les problèmes inhérents à la série. Si on imagine une pièce de théâtre d'une heure et demie sur le sujet, elle peut vraiment faire quelque chose de formidable.
D'autres questions, peut-être ?
Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Sylvain. Par rapport au robot et l'humain, parce que dans les textes que j'ai travaillé avec les lycéens, il y a un groupe qui avait imaginé donc des humains qui ne savent pas qu'ils sont des robots, mais qui se rendent compte finalement qu'ils sont des robots. Et je trouvais l'idée intéressante à travailler. Ils se rendent compte qu'ils sont des robots. En fait, ils ont tous la même marque sur l'épaule. Voilà. C'est tout.
D'autres remarques ? Questions, insultes, affirmations, aberrations? Non. Alors, c'est à moi de remercier nos intervenants.
J'aimerais juste dire une chose,
Marcel,
quand même.
Qui veut, évidemment, il a commencé, il faut qu'il finisse. Ouais.
C'est qu'il y a quand même une vertu qu'il faut accorder à la science-fiction, c'est qu'avec la science-fiction, on n'échappe pas du tout, c'est difficile d'échapper aux questions fondamentales. D'où venons-nous? Où allons-nous? Est-ce que c'est obligé, quoi. C'est ça. On est forcément confronté à ça, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la vie, l'être humain, et où est-ce que nous allons?
Je peux vous répondre, nous allons au lieu unique, ouais. Puisque à 18h30, il y a le vernissage de l'exposition Jules Verne Grand Écran, donc sur Jules Verne au théâtre, au cinéma. Il y aura de l'alcool gratuit, c'est un vernissage. Je vous invite, j'ai le droit puisque je suis le directeur du lieu unique, à partir de 18h30, venez nombreux, c'est là où on va tout de suite. Merci à vous. Il y a les dédicaces aussi, bien sûr. Avant, vous avez pendant une demi-heure, il vous faut aller à la librairie pour vous faire dédicacer Cabaret du Futur par les auteurs, quand même. Merci.